nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Max soupire et dit « Je n'ai pas envie. Je n'aime pas du tout ce truc. Mais on va te supprimer tes acédiques. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, je n'ai pas faim. Je m'en fous. Et puis, tu gagnes bien assez. Oui, mais s'il m'arrivait quelque chose, nous ne sommes pas encore mariés, tu sais. »
Oui, je sais, mais je veux me marier qu'à l'église. Et puis, il y a la nounours qui voudra sûrement pas, cette garce.
Mathieu soupire et lui dit « T'es en Amérique ?»«
Non alors, et mon émission ?»«
Bon, mais demain matin, tu vas à la NPE. »
Tu sais très bien que le matin, je ne peux pas me lever. Et puis, je suis un artiste. Un artiste ne se lève pas le matin.
Je te réveillerai. Mathieu se lève et lui demande. Tu veux de la tisane avant d'aller te coucher?
Oui, mon Mimi.
Mathieu va à la cuisine. Prends l'égouttoir de l'évier, une casserole. La remplis d'eau. Va faire chauffer l'eau. Cinq minutes plus tard, Mathieu sort de la cuisine avec un plateau. Où se trouvent dessus deux bols fumants. Il va vers Pierre-Max, lui en tend un. Tiens,
Ouh, c'est chaud! Souffle dessus.
Une fois qu'ils aient bu, se sont préparés pour se coucher et dormir. Pierre-Max, qui n'arrive pas à dormir la nuit, ne fait que de se tourner et se retourner, ce qui empêche Mathieu de dormir. Pierre-Max ne s'endort que vers les 3 heures du matin. À 8 heures, Mathieu se réveille.
Je me souviens que Pierre-Max doit aller à la NPE. Alors il le secoue.
Allez, allez. Allons, il est l'heure, mon Mimi. Debout.
Pierre-Max se tourne et lui dit.
Laisse-moi dormir.
Non. Tu ne peux pas. Tu as allé à la NPE.
Mais il n'y a pas de travail pour moi.
C'est obligatoire. Il faut y aller. Il n'y a plus d'acédic.
Je m'en fiche. Je vis au jour le jour.
Allez, arrête de faire l'enfant. Lève-toi. Je vais préparer le petit déjeuner. Mathieu se lève en slip.
N'oublie pas de te laver et de mettre des vêtements propres. Il faut que tu ne sentes pas mauvais.
Et Mathieu va à la cuisine préparer le petit déjeuner. Pierre-Max soupire. Et se soulève. S'assoit. Se gratte la tête. Il a le cheveu tout en broussailles. Il jette les draps. Il est en maillot de corps tricoté et en slip blanc qui sont devenus gris jaune. Il soupire. Se lève. Et va à la salle d'eau pour faire sa toilette. Rose. Il a une barbe bien dure. Puis, après s'être rasé, il se souvient que Mathieu lui a dit d'être propre. Alors il se déshabille pour prendre sa douche. Après avoir pris sa douche, va retourner, va retrouver Mathieu à la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Le petit déjeuner est prêt sur la table. Il s'assoit à table. Mathieu, debout, le sert. T'en as mis du temps. Il est 9h15. J'ai pas envie d'y aller. Si tu iras, pour faire plaisir. Mathieu s'assoit. Et mange. Mange avec lui. Tout en mangeant, elle lui dit. Il faut que tu sois plus indépendant vis-à-vis de moi. Si t'as m'arrivé quelque chose, c'est pas bien de vivre au crochet de la société. Tu vis avec moi? Tu viens avec moi? Oui, si tu veux. Une demi-heure plus tard, ils sont sortis de leur appartement pour aller à la NPE. Descendre les escaliers et vers les boîtes aux lettres. Trouve la locataire du troisième, une femme grande, forte, dans les 50 ans, habillée d'un manteau rouge. Elle demande à Mathieu, « Vous sortez ?» Mathieu lui dit, « Oui, je l'amène à la NPE, il y a du travail maintenant. » Elle lui dit, « Ah oui, du travail obligatoire. » Elle regarde Pierre-Max, bien propre, et lui dit, « Ils vont vous donner du travail, hein ? Vous l'avez mis bien propre. Ça ne doit pas être facile de le mener à la NPE. Ça me rappelle mon fils qui ne voulait pas aller à l'école. » Tous les matins, c'était la cour, la course. Et vous, ce matin ? Ça a été. « Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas beaucoup entendu ce matin. Allez, je vous quitte. J'ai à faire mon marché. » En traînant son caddie. Et Mathieu et Pierre-Max sortent à leur tour. Pierre-Max, sur le chemin qui le mène à l'école, non à la NPE, ne parle pas, il boude. Mathieu le tient fermement à la main, comme une mère qui mène son enfant réfractaire à l'école. Il pousse, il passe devant une boulangerie. Mathieu lui demande, « Tu veux que je t'achète un pain russe ?»«
Non, je n'ai pas faim. »
Tu n'as rien mangé ce matin. Sortir le ventre creux, ce n'est pas bien.
Tu ne veux pas de bonbons ?
Pierre-Max hésite. Il rougit. Allez, va. On va t'acheter un paquet de bonbons. C'est bon, les caramels. Entrez dans la boulangerie. Mathieu le tient toujours à la main. Il lui dit, « Enlève ton bonnet !» Il lui enlève son bonnet, marine, et lui rend ses cheveux. La boulangère, une grosse femme blonde, à blouse blanche, vient vers eux. La boulangère du quartier, elle connaît bien Pierre-Max et Mathieu. Elle a vu tous les films de Mathieu, et même celui avec les grosses bêtes vertes qui cassent tout sur leur passage.
« Bonjour, messieurs !»
Mathieu lui dit, « Pierre-Max aimerait des bonbons. »«
Oui, lesquels ?»
Mathieu lui répond, « Des caramels. » La boulangère tend un paquet de bonbons à Pierre-Max.
« Tiens, Pierre-Max !»
Il les prend sans rien dire. Elle demande, « Alors, comment allez-vous ?» Mathieu dit, « Ça ne va pas ce matin, monsieur boude, parce que je le mène à la NPE. Il ne veut pas y aller. Il n'a même pas voulu prendre son petit déjeuner.
Il veut un pain russe ?»«
Même pas. » La boulangère se penche vers Pierre-Max et lui dit,
« Oh, mais ce n'est pas gentil. Tu vas tomber malade. »
De ne pas manger.
Je m'en fous!
Elle se redresse et dit à Mathieu,
ça lui passera. Vous croyez qu'ils vont lui trouver quelque chose? Il n'a jamais travaillé de sa vie.
Mathieu lui dit, de toute façon, c'est obligatoire.
Je ne le vois pas porter des sacs de ciment.
Mathieu lui dit, moi non plus, mais puisque c'est obligatoire, puisqu'il le faut, et puis puisqu'il est de droite, il doit respecter la loi. Mathieu regarde sa montre et dit, bon, il faut y aller, il est déjà 11h. Il paye. Au revoir, madame.
Au revoir, messieurs.
Enfin, dehors. Mathieu remet le bonnet sur la tête de Pierre-Max. Donne-moi le paquet de bonbons, je vais t'en donner un. Ils approchent enfin de la NPE de leur quartier. Plus ils y approchent, plus il y a de monde sur le trottoir. Tout à coup, ils sont bloqués par une foule immense. Devant eux, des cars de police, l'armée, sont là aussi. Pierre-Max dit,
on s'en va.
Mais ils ne peuvent plus, ils sont bloqués, encerclés. Des barrières leur empêchent de sortir. Derrière eux, il y a la foule. Un soldat en armes crie, en rond tous les deux, en rond. Pierre-Max pleure et dit,
je veux m'en aller,
je veux m'en aller.
Mathieu, lui, courage, courage, que de chômeurs, que de vieux, que de chômeurs allant pour l'embauche.
Mais je ne veux pas travailler, moi, je ne veux pas travailler.
Il faut bien, Pierre-Max, c'est obligatoire, ne t'en fais pas de soucis, je suis là. Tu veux un bonbon?
Je n'en veux pas, je n'ai pas faim.
Il arrive des vendeurs de sandwichs, des chanteurs des rues, des journaux SDF, etc. C'est la kermesse. Il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de monde. Les vendeurs pensent, passent, vendent des boissons. Tu en veux?
Non, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez nous. Cet après-midi, je dois parler à la radio pour dire mes annonces, parce que demain, Jean-Pierre va crier. Je veux m'en aller. Il faut que je trie mes annonces.
Au milieu des vendeurs, des chanteurs, la police, l'armée, qui passent et repassent. Enfin, au bout de 5 heures d'attente, ils arrivent à rentrer à la NPE. Il y a une hôtesse en tailleur rouge qui distribue aux chômeurs des dépliants. Elle en donne un à Pierre-Max et un à Mathieu. En plus, un numéro d'appel. Ça fait bien et sérieux. On fait encore la queue dans le hall, car chacun doit passer dans le bureau du recruteur. Les gens sont épuisés et incapables de subir correctement un entretien. Après 2 heures d'attente, c'est au tour de Pierre-Max à entrer dans le bureau. Il y va avec Mathieu, un gros bonhomme qui barre la route, et lui dit:
chacun son tour.
Mathieu lui dit: mais nous sommes ensemble.
Et on lui dit: chacun son tour. Il n'y a que les concubins qui ont le droit d'entrer ensemble.
Mais je suis son concubin.
Vous me foutez de moi?
Non, je suis. Je vous assure que je suis son concubin.
Cela suffit. Allez à votre place.
Mais ça fait 25 ans que l'on est ensemble et il ne sait rien faire sans moi.
Pierre-Max dit:
s'il ne vient pas avec moi, je ne viens pas.
C'est obligatoire.
Je m'en fous. L'hôtesse s'approche.
Passe-t-il?
Le garde lui dit:
Ils veulent entrer ensemble.
Elle dit à Mathieu calmement.
Vous ne pouvez pas, monsieur. C'est un entretien personnel.
Nous sommes ensemble depuis 25 ans.
Il n'y a que les compagnons qui puissent entrer ensemble.
Je suis son compagnon. Elle le regarde bien et lui dit.
Un si joli garçon, c'est impossible.
Mathieu hausse ses épaules et embrasse sur les lèvres Pierre-Max. Elle les regarde d'un air coquin et dit à Mathieu.
Vous embrassez bien. Dommage.
Et dit au garde.
Laissez-les entrer. Ils bloquent tout l'effectif.
Mais mademoiselle.
Elle hausse ses épaules et lui dit.
Que voulez-vous? C'est dommage un si joli garçon. Vous avez peut-être de la chance.
L'homme se penche et dit
« Entrez, messieurs !»
en tendant les lèvres.
Et ils sont rentrés dans un bureau.
C'est une pièce carrée assez grande, avec des meubles de bureau en métal gris, plantes vertes, siège recouvert de PVC gris. Deux hommes sont assis au même bureau, tous les deux en costume gris. L'un est petit, cheveux gris et maigre. L'autre est grand, fort, cheveux grisonnants, yeux bleus. Le petit leur dit
« Oh, vous voilà enfin. J'avais dit un à la fois. Pourquoi êtes-vous deux ?»
Mathieu lui dit, « Parce que nous sommes ensemble depuis 25 ans. » L'homme soupire et dit,
« Bon, ça ira plus vite. Venez vous asseoir. »
Et ils vont s'asseoir sur des chaises en face du bureau.
Leur dit, j'espère c'est que vous avez entendu le discours du président de la République.
Pierre-Max leur dit,
oui, il est de gauche.
Petit homme continue.
Il y a du travail pour tout le monde maintenant. Et ceux qui ne travaillent pas seront des tirs au flanc. Mais ils ne recevront plus d'aide. Les ascédiques sont supprimés. Monsieur Lefranc, qui est à côté de moi, représente la Société d'aménagement du territoire et de la construction Franc-Blanc. C'est cette société qui va embaucher.
Le grand homme, Monsieur Lefranc, prend la parole.
Oui, notre groupe a la grande joie d'avoir reçu l'offre du gouvernement français de reconstruire les grandes villes de ce beau pays. Cela donne beaucoup de travail et du travail pour longtemps. Notre société a besoin de beaucoup de personnel. Tout le monde sera occupé suivant ses capacités, car nous avons besoin de nombreux corps de métier qui va du jardinier à l'architecte en passant par le grutier et le maçon.
Il les regarde tous les deux et dit
« Je crois que nous allons vous trouver un emploi. Tout le monde trouve un emploi chez nous. »
Chauve leur dit
« Bien, merci. Vous allez nous donner vos noms, prénoms, et votre spécialité professionnelle. J'espère c'est que vous avez lu le petit fascicule que nous avons donné à l'entrée. »
Pierre-Max lui dit,
« Je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas ma loupe. »
Le petit homme lui dit,
« Bien, nom, prénom. Pierre-Max, profession. Je n'ai jamais travaillé. Pourquoi ? Parce que je suis un artiste. »
Ah, un artiste de quoi ?
Je chante, je joue la comédie
et fait des émissions de radio.
Cela fait longtemps que vous êtes au chômage?
Plus de 20 ans.
20 ans et vous n'avez jamais travaillé?
Non, jamais travaillé en plein temps.
Bien, et que comptez-vous faire?
Rien, je ne veux pas travailler. Et puis je n'ai rien fait, je ne sais rien faire.
Vous ne savez rien faire? Vous ne savez rien faire, mais l'affront blanc vous trouvera toujours quelque chose à faire, n'est-ce pas, monsieur Lefranc?
Monsieur Lefranc, oui, bien sûr, nous avons des postes de travail très intéressants, tels que, je vous vois bien, transportant des sacs de ciment, ce n'est pas difficile. Vous les prenez et les transportez dans un autre endroit.
Mathieu lui dit, mais il n'est pas assez fort.
Monsieur Lefranc sourit et lui dit,
il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais n'ayez pas peur, nous n'allons pas vous l'abîmer, votre ami. Allez, êtes-vous d'accord, monsieur Max?
Pierre Max lui dit,
je suis pris. Je suis très pris. J'ai mon emploi du temps très serré. Je ne sais pas si je pourrais.
Mais qu'avez-vous donc tant à faire?
J'ai ma chorale, mes émissions de radio, mes films, la fête de mon petit village.
C'est du travail au noir, le petit homme dit. Vous n'avez pas le droit aux assédiques. Il va falloir rembourser.
Mathieu lui dit, mais fais ça bénévolement.
Le petit homme lui dit, bénévolement ou pas, c'est du travail au noir. Vous allez devoir rembourser les assédiques et payer une amende.
Vous avez dit chorale, radio, film, fête.
Ça va vous faire une sacrée amende.
Mathieu se lève et dit, viens, partons, ils sont fous.
Le petit homme lui dit, « Soyez poli, sinon vous aussi !»
Mathieu lui dit, « Mais vous ne me faites pas peur, j'ai des amis qui puissent m'aider, et même le président des États-Unis !»
Un petit homme sourit et lui dit,
« Ami ou pas, vous payerez !»«
Non, viens, Pierre Max !»
On dit, « Et mon emploi ?» Mathieu hausse ses épaules et ils sortent.
Lorsqu'ils sortent du bureau, ils voient que la foule est encore plus dense.
La rue est pleine de monde. Ça chante, ça crie, ça rit. Il y a des cars de police, l'armée. On entend des soldats qui tirent dans tous les sens.
Mathieu prend Pierre Max par la main et dit, dépêchons-nous de quitter tout ça.
Mais ce qui se passe,
en fendant la foule, les gens leur demandent comment ça s'est passé. Pierre Max dit,
c'est une secte, une secte. C'est louche la NPE.
Les gens qui les écoutent leur crient,
ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas.
Do vois quelque chose.
Pendant ce temps, au bureau de la NPE, l'homme de la NPE veut faire un rapport contre Pierre Max pour travail au noir. Mais au moment de le faire, il se rend compte qu'il n'a pas le nom de famille de Pierre Max ni son adresse. Il dit le flanc.
Vous auriez pu vous rendre compte que j'avais oublié de lui demander son nom et son adresse. Maintenant, c'est foutu. Je ne peux pas porter plainte contre lui. C'est de votre faute, tout ça. Voyons. Oh là. Encore une personne qui fait des choses illégales et qui ne sera pas punie.
Pierre Max et Mathieu réussissent, avec beaucoup de difficultés, à entrer chez eux. Une fois déshabillés, Mathieu demande à Pierre Max ce qu'il compte faire maintenant. Pierre Max lui dit
« J'ai faim, prépare à manger. »
Tu ne vas plus avoir les acédiques.
Je m'en fiche.
Et comment vas-tu faire pour vivre?
Tu es avec moi.
Et si il m'arrivait quelque chose?
On verra. Je vis au jour le jour maintenant. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Allez, j'ai faim.
Mathieu va à la cuisine préparer le repas. Pendant ce temps, les chômeurs sont embauchés. On leur fait signer un contrat d'un mois de suite renouvelable tous les mois. Ils sont embauchés surtout pour des petits boulots, car la plupart du temps, ce sont des gens sans spécialisation ni diplôme. Ils seront logés, nourris, blanchis sur le chantier des dortoirs de 12 personnes par cabane, une cantine collective et une douche. Cela fait partie de leur salaire et en plus ils auront droit à un logement social à petit loyer qui au bout de 25 ans leur appartiendra. Pas de primes de congés payés, ils pourront prendre des vacances sans solde. Pour la personne toute seule, ça peut aller, Mais la personne qui a une famille, elle va vivre. Non, elle n'aura pas d'argent pour sa famille. Les pères de famille, les gens qui ont des personnes à charge, acceptent parce que on leur coupe les acédiques et que pendant le temps de l'embauche, ils auront lui, eux, à manger, etc. Et plus tard, un logement pour sa famille. Mais sa famille, durant tout ce temps, comment va-t-elle faire pour vivre sans le salaire du père? La mère pourrait, elle aussi, se présenter au chômage et se faire embaucher. Mais c'est trop tard. La NPE est fermée officiellement. Il n'y a plus de demandeurs d'emploi. Donc, officiellement, plus de chômeurs, de gens qui ont besoin d'aide. Cela crée de nouveaux pauvres, des pauvres qui n'existent pas. Des familles qui n'ont plus de quoi se nourrir, vêtir, loger, que vont faire ces femmes, ces enfants, ces vieillards, ces malades, ces hommes. Avec ce plan anti-chômage, l'on crée plus de misère et en plus, l'on expulse les gens pour les mettre dans des zones loin de tout. La misère grandissante est mise dans des camps. Il y avait des zones spéciales pour les SDF et maintenant il y a des zones pour les sans-emploi. La nouvelle société rejette ces pauvres et en crée de plus en plus. C'est sans euphorie que les nouveaux employeurs vont rejoindre leur lieu de travail. Pour le moment, ils sont embauchés pour Paris, parce que c'est Paris que l'on reconstruit. De toute la France, des trains entiers les y amènent dans, j'allais dire, dans des camps de travail, car ces camps sont des centres autour de Paris, les alentours. Aux alentours de Paris, on met aussi le stockage de la marchandise et des machines. Tout ça, ça se trouve autour de Paris. Chaque matin, on vient prendre par car les ouvriers, les camps pour les mener au chantier dispersés dans la ville et le soir, on les ramène, tout le monde sous bonne garde. On les amène en camion sur les lieux de travail. Bien surveillés. Vous avez compris, les chantiers sont dispersés dans Paris, le lieu de ralliement où il y a le dortoir, cantine, stockage, etc. se trouve autour de Paris, le lieu plutôt, les lieux, ces lieux de ralliement sont entourés de barbelés, caméras télévision, chiens de garde, armées, etc. Pour toutes les grandes villes, ça se passera comme ça. Ça rentabilise. On sait où sont les ouvriers. Ça empêche les troubles dans les villes. Les minuteries, les départs en cachette, les vols aussi, le travail au noir, ça empêche tout ça. Voilà le plan Franc-Blanc est prêt.
que ce soit pour les expulsions, l'emploi, le travail, la surveillance et le commercial.
Il est 2 heures du matin. Maurice est dans son bureau de son siège. Il a lu tous les dossiers, tout test. Les camps de travail, les chantiers, la surveillance, l'armée, le régiment, le corgé d'ici, avec centrale, ordinateur et télévision. Tout est en ordre pour l'opération et elle peut vraiment commencer. Il est très satisfait. Tout ce qu'il a prévu a été fait à la lettre. L'embauche à la NPE a été remarquable, à part 2 ou 3 cas. À partir de demain minuit, plus d'ANPE ni d'ACEDIC. Officiellement, il n'y a plus de chômeurs en France. Mais mes employés de ces 2 services ont été réembauchés par Franblanc, la plus grande société de France, et peut-être du... Non, pas encore. C'est lui qui a le plus de salariés au monde et qui a mis tout le monde au travail. Il se dit comme Knock a couché tout son département. Tout est à lui. Ces imbéciles du gouvernement lui ont fait cadeau de la France et de ses habitants pour 0 franc. Il est le propriétaire de la terre et de ses habitants. Sans que personne ne s'en rende compte, il est devenu le seul propriétaire de France et sans qu'il le demande. On lui a proposé et donné. Il a pris. Il se dit « Soyons enfin politiques et cachons notre pouvoir ». Qu'ils croient être encore des chefs et avoir quelque chose à dire. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La 3e époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.